Le travail, on le voit dès les premières lignes de la Bible, puisque Dieu travaille. Il crée toutes choses et c'est réussi. L'homme, ensuite, créé comme image de Dieu, va recevoir cette mission de cultiver et de garder le jardin. Dieu lui donne un mandat, une mission, c'est d'administrer sa création, de veiller sur elle et puis de la développer. Et il est en quelque sorte collaborateur de Dieu. Ça, c'était la première session qu'on a eue. Et puis la seconde, la semaine dernière, on a vu que le Nouveau Testament en particulier nous donnait une dimension qui est celle du service. Nous travaillons pour servir Dieu et pour servir les autres. La Bible nous appelle à vivre et à travailler sous le regard de Dieu et à lui offrir toute notre vie comme un culte. Et ça intègre notre travail. Du coup, la Bible réoriente notre perspective sur le travail. C'est un service pour Dieu, pour les autres. Et concevoir le travail ainsi va transformer nos motivations, notre façon de travailler, nos pratiques, aussi nos relations. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une autre facette sur le fait que la Bible ne fait pas l'impasse sur la souffrance qui peut être attachée au travail. Cette souffrance au travail, la Bible y voit une conséquence de la révolte de l'homme contre son créateur. Et parmi les désordres qui découlent de cette révolte, se trouve la pénibilité du travail et des relations conflictuelles. Dès que l'homme et la femme se sont détournés de Dieu, tout de suite, ils commencent à s'embrouiller. Oui, mais c'est elle, etc. Première dispute conjugale là, dans Genèse chapitre 3. Et par rapport au travail, Dieu prononce cette parole « Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras des produits du sol. Tu en tireras ton pain à la sueur de ton front. » Le travail n'est pas devenu une chose mauvaise en soi, mais une chose pénible, en partie. Le travail peut être source de souffrance physique. Tu travailleras à la sueur de ton front. De souffrance morale aussi, notamment due à des relations conflictuelles. Oui, les employeurs ou les collègues n'agissent pas toujours avec droiture, avec bienveillance, avec patience, etc. Et vous et moi non plus, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que la Bible a à nous dire quand nous sommes, notamment, face à l'injustice? Dans le monde du travail, l'injustice se manifeste à différents niveaux. Au niveau global, on trouve des entreprises qui parfois abusent de leur pouvoir pour exploiter des ressources ou maltraiter, exploiter des personnes, par exemple en versant des salaires de misère, en délocalisant peut-être à l'autre bout de la planète, ou à utiliser les salariés simplement comme une variable d'ajustement, comme on dit. Ah, les résultats sont pas très bons, allez, on va faire un plan social. C'est bien sûr un peu caricatural, mais malgré tout, on trouve des choses de ce genre. D'autres entreprises vont contourner des règles pour tirer des profits maximum. Ça peut être par des pratiques de corruption, mais aussi de mensonges, de trucage. On a des scandales, par exemple, sur les mesures par rapport au moteur diesel, qui avait touché pas mal de constructeurs parce qu'ils avaient truqué les résultats sur les émissions réelles de leur moteur. Tout ça, c'est pour des questions de, évidemment, d'image et de vendre le maximum de véhicules. Voilà, on truque des résultats. Des pratiques d'entente. On veut vendre nos produits au tarif maximum et on s'arrange avec nos concurrents. On se met tous autour d'une table et on dit « Ok, on va pas vendre moins cher que ça. » Ça s'appelle de l'entente. C'est interdit par les lois, justement, de la concurrence. Tout ça, c'est des formes d'injustice qui inondent le monde du travail. Et puis, bien sûr, ce qui nous est peut-être plus familier ou plus quotidien, c'est au niveau local, avec des employeurs ou des collègues qui peut-être vont faire preuve de mépris, de discrimination, exercer des pressions insoutenables. On reviendra sur cette facette-là dans quelques instants. Mais alors, comment agir, comment réagir en tant que chrétien? On se fait peut-être parfois une idée un peu simpliste de l'enseignement biblique à ce sujet, avec une image qui cantonne le chrétien à une sorte de passivité. Et pourtant, dans l'Ancien Testament déjà, les prophètes, par exemple, dénoncent les abus de pouvoir, dénoncent les injustices sociales. Écoutez par exemple ce que déclare Amos, ce porte-parole de l'Éternel qui a exercé en Israël vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. Écoutez donc ceci, vous qui volez les indigents, les pauvres, et voulez en finir avec les pauvres du pays. Oui, vous qui dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous vendions notre blé? Quand le sabbat finira-t-il pour que nous ouvrions nos magasins de grains? Nous diminuerons la mesure, nous en augmenterons le prix, en truquant les balances. Et nous achèterons le pauvre pour de l'argent, et l'indigent pour un morceau de pain. Nous vendrons même jusqu'aux déchets du blé. L'Éternel l'a juré. Aussi vrai que Jacob est orgueilleux, jamais je n'oublierai aucune de leurs œuvres. Il y a ces gens-là qui disent, mais quand est-ce que le sabbat va finir, là, qu'on puisse faire du business? Donc, ils veulent bien respecter le sabbat, mais ce qu'ils ont en tête, le seul truc qu'ils ont en tête, c'est faire le maximum de business. Quant aux pauvres, quand est-ce qu'on va pouvoir les opprimer? Parce que vous savez, à l'époque, lorsqu'on est surendetté, on se met en esclavage pour payer sa dette. Donc, on peut mettre en esclavage des gens. Là, l'idée, c'est, allez, pour une bouchée de pain, pour une dette dérisoire, allez, on en fait un esclave. Dans la traduction plus littérale, c'est pour une paire de sandales. Pour une paire de sandales. Dénonciation un peu typique du discours des prophètes dans l'Ancien Testament. C'est juste un exemple. Mais dans le Nouveau Testament, il y a vraiment aussi une dénonciation des injustices commises en particulier par les puissants, notamment chez Jacques, qui les dénonce avec force. Je cite. Et maintenant, écoutez-moi, vous qui êtes riches. Pleurez et lamentez-vous au sujet des malheurs qui vont fondre sur vous. Votre richesse est pourrie et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont corrodés et cette corrosion témoignera contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez entassé des richesses dans ces jours de la faim. Vous n'avez pas payé leur juste salaire aux ouvriers qui ont moissonné vos champs. Cette injustice crie contre vous. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées célestes. Vous avez vécu ici-bas dans les plaisirs et le luxe. Vous vous êtes engraissés comme des animaux pour le jour où vous allez être égorgés. Il mâche pas ses mots, Jacques. Alors, Jacques, il met en cause les riches, non pas parce qu'ils sont riches. Il aura par ailleurs, dans son écrit, des exhortations pour les riches qui sont attachés à Dieu. Il leur dire, comment utiliser positivement les richesses que Dieu leur a confiées. Donc, c'est pas les riches en soi le problème. Et ça serait facile de taper sur les riches. Mais ici, ce qu'il met en cause, c'est qu'ils se sont accaparés ces richesses. Ils en ont tellement qu'elle est en train de rouiller. Vous voyez, ils ont entassé des tas d'or. Et ils n'ont pas versé à leurs ouvriers un juste salaire. Ils sont injustes, ils exploitent. Dénonciation dans le Nouveau Testament. Alors, la Bible, donc, n'est pas silencieuse contre l'injustice économique, l'injustice au travail. Est-ce qu'on devrait être passif nous-mêmes? Là encore, il y a peut-être certains malentendus parce qu'on a en tête notamment des paroles de Jésus qui sont celles-ci. Dans son sermon sur la montagne, Jésus dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Il dit encore, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Alors avec ces paroles, on peut avoir une première pensée qui est celle de Jésus m'appelle à être passif face à l'injustice, face à la violence. Mais lorsqu'on regarde plus dans le détail, on s'aperçoit que aimer son ennemi ne revient pas forcément à adopter cette attitude passive et à se soumettre dans le silence. Parce qu'aimer l'ennemi, c'est aussi lui montrer, le confronter au fait qu'il fait fausse route. Et ceci n'exclut pas donc de dénoncer l'injustice. Regardez comment Jésus lui-même, au cours de son pseudo-procès, Jésus a été frappé sur la joue. Jésus comparé et on lui demande compte de ce qu'il a enseigné. Jésus dit « Mais moi, j'ai enseigné ouvertement. Pourquoi aujourd'hui on vient m'interroger ?» Et à ce moment-là, le texte nous dit « À ces mots, un des gardes qui se tenait à côté de lui le gifla en disant « C'est comme ça que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répondit « Si j'ai mal parlé, montre-moi où est le mal. Mais si ce que je dis est vrai, pourquoi me frappes-tu » C'est intéressant parce que c'est exactement le cas qu'il a mentionné dans le sermon sur la montagne. Et pourtant, dans le cas présent, Jésus ne reste pas passif. Alors il répond pas par l'insulte, il répond pas par la violence, il lui a pas retourné une baffe. Mais il dit ce qu'il pense et il veut remettre en question le garde sur le fait qu'il agit mal. Et peut-être que par là, il veut lui donner une chance de changer. John Stott, un des prédicateurs anglais les plus connus au XXe siècle, remet en question l'image d'un Jésus tout gentil, tout mignon. Je cite « L'image populaire du Christ comme un gentil Jésus humble et doux ne convient certainement pas. C'est une fausse image. Bien sûr, il était plein d'amour, de compassion et de tendresse. Mais il n'avait aucune inhibition, aucune gêne pour exposer l'erreur, pour dénoncer le péché et tout spécialement l'hypocrisie. » Et Jésus était connu pour ses controverses avec les chefs religieux. Donc ni Jésus, ni Paul, si on devait regarder encore dans d'autres passages, ne sont restés passifs eux-mêmes dans les procès qui les concernaient. Ils respectent toujours les personnes en position d'autorité, mais ils témoignent en faveur de la justice. Donc je pense que pour le chrétien, la Bible nous montre qu'il y a une place pour la lutte contre les injustices, et en particulier lorsque ça dépasse nos propres intérêts personnels. C'est pas qu'une question de lutte pour soi-même. Alors cette remarque, elle renvoie certainement à la question de l'engagement du chrétien en politique ou dans le cadre d'un mandat syndical, d'un mandat de représentant du personnel, pourquoi pas. Pendant quelques temps, j'ai travaillé pour un cabinet de conseil au comité d'entreprise. Et l'une de nos missions, c'était d'intervenir pour accompagner les représentants du personnel dans le cadre de plans sociaux. Plan de sauvegarde de l'emploi, pour utiliser les termes juridiques. Donc, lorsque des gens sont licenciés. Et dans ce contexte-là, en fait, nous, on avait une possibilité, une marge de manœuvre pour essayer de protéger des salariés plus fragiles, par exemple. Lorsqu'il y avait un plan de licenciement, on allait essayer d'affiner pour protéger, par exemple, des salariés plus seniors. Parce que ces gens-là, quand ils perdent leur emploi, ça va être plus compliqué pour eux de trouver un travail. Ou des gens qui étaient peu qualifiés. Je me souviens pas exactement les catégories, mais en fait, on avait tout le détail du plan social avec un chiffrage, évidemment, une enveloppe. Et on essayait d'affiner, et des fois, d'augmenter le curseur sur telle ou telle catégorie parmi les salariés pour protéger. Donc, on a les possibilités de militer, d'agir pour plus de justice, bien sûr. Peut-on, doit-on militer dans... Par exemple, dans un syndicat pour défendre les droits des salariés? Je pense que c'est une question d'appel. Est-ce que Dieu vraiment nous donne une conviction dans ce sens-là? Mais je pense qu'en tout cas, il y a du sens à ce que dans une entreprise, il y ait des contre-pouvoirs dans l'entreprise pour équilibrer les forces, entre guillemets. Alors bien sûr, il faut faire preuve de lucidité par rapport à un tel engagement en tant que chrétien. Déjà, il y a différents types de syndicats avec des philosophies qui sont pas exactement toutes les mêmes. Ensuite, faut prendre conscience qu'il y a souvent aussi au sein de ces organisations une sorte d'esprit de compétition, voire de jalousie même entre organisations syndicales. On essaie de capter le prestige, on essaie de capter d'avoir la main mise dans les élections, etc., de peser dans l'entreprise. Donc, il y a aussi beaucoup de jalousie qui peut être présente. Mais je pense qu'il y a certainement une manière d'exercer un tel mandat avec une éthique chrétienne. Le faire d'une manière chrétienne. Un de mes oncles a été engagé sur les dernières années de son travail dans un syndicat. Il travaillait pour Pôle emploi. Et voilà, il le faisait aussi avec ses convictions chrétiennes. Et je pense que les marqueurs qu'il y a, déjà une grande différence, c'est de le faire avec le respect de la hiérarchie. Vous savez, quand vous êtes dans cet univers-là, il peut y avoir une sorte de mentalité de lutte des classes. Et en fait, la direction, c'est des gens qu'on déteste. Du coup, moi, j'ai travaillé dans ce contexte-là, un peu avec des gens, et on perçoit les choses. Et dans dans les échanges, on peut percevoir une forme d'inimitié. En tant que chrétien, c'est pas ça qui doit nous animer. Donc, une attitude de respect, déjà, ça peut faire beaucoup de différence. Et une attitude d'écoute envers tous. Ça, c'est ce qu'on attend d'un représentant du personnel, depuis l'ouvrier le plus simple jusqu'à un cadre ou quoi. On va avoir des interlocuteurs assez différents qui vont nous solliciter. Donc je pense qu'il y a une manière de le faire en tant que chrétien, mais c'est une question d'appel. Est-ce que Dieu, voilà, me pousse à y aller? Alors oui, pour cette première partie, face à l'injustice, il y a matière à agir. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Il aime la justice. Et donc il y a place pour lutter aussi pour la justice, sans se faire d'illusions qu'on va transformer tout le monde entier. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire non plus. Maintenant, on va s'intéresser plus particulièrement aux conflits relationnels. Et je rappelle, par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière, que la Bible nous invite à considérer donc notre travail comme un service pour Dieu et pour les autres. Nous appelle à voir le travail comme un lieu où aimer notre prochain. Et notre prochain, en l'occurrence, c'est aussi un collègue, un employé ou un patron difficile. Face aux relations conflictuelles, comment faire? Je sais pas comment ça se passe pour ceux qui sont en poste avec votre chef, avec vos collègues. On a souvent tendance à se plaindre les uns des autres. Et puis nous, Français, on est assez spécialistes en la matière, malheureusement. Ouais, un tel dans le service, c'est un incompétent, il nous plombe. Tel apprenti, il est vraiment pas sérieux. Il nous fait perdre notre temps. Tel boss, il est impitoyable, impatient, il s'accapare mes réalisations, etc., etc. Pour reprendre ce que disait Jean-Paul Sartre, l'enfer c'est toujours les autres. Mais Jésus-Christ nous appelle à aimer les autres, et même nos ennemis d'ailleurs, comme on l'a lu. Alors, à votre avis, comment réagir dans des relations conflictuelles au travail? Et je sais que certains parmi nous ont eu de quoi expérimenter en la matière. Qu'est-ce que, selon vous, la Bible nous enseigne là-dessus, et qu'est-ce que votre expérience peut-être vous a appris? Je pense avec ce qu'on a vu la semaine dernière, cette question de continuer de respecter l'autorité de nos responsables, c'est aussi une forme de témoignage quand on se souvient que les gens sont en autorité aussi parce que Dieu l'a voulu. Et ça intègre nos patrons difficiles. C'est compliqué, ça. Mais ça intègre aussi nos patrons difficiles ou nos collègues qui nous mettent des bâtons dans les roues ou qui sont désagréables. Continuer à les respecter. Et respecter, c'est juste un premier niveau. Parce que aimer, ça va plus loin. Donc, Dieu nous appelle à les aimer. Continuer de travailler avec sérieux. Comme pour le Seigneur, oui, qu'on a vu la semaine dernière. Peut-être le patron, il voit pas trop qu'on travaille avec soin, et ça nous frustre, ça nous met en colère, mais on le fait comme pour le Seigneur. Et peut-être qu'il verra rien, peut-être qu'il va pas souligner la qualité de votre travail, mais c'est comme pour le Seigneur, et c'est lui qui nous voit. Et c'est lui qui récompensera. Il y a quelque chose de très difficile, c'est de ne pas murmurer, et de ne pas prendre part aux médisances, aux commérages. Parce que si votre patron est difficile, vos collègues l'auront remarqué aussi. Et ils n'hésiteront pas à le remarquer autour de la machine à café, par exemple. Et là, c'est très difficile de pas rentrer dans la discussion et de rajouter sa petite remarque. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de maîtrise de soi. Mais de pas rentrer dans ce jeu-là d'y ajouter. Ça fait partie de la maîtrise de la langue dont parle encore Jacques, tiens. Même si l'employeur le mérite, ne pas en rajouter sous le coup d'un peu des frustrations ou du ressentiment qu'on peut avoir. Ça, c'est dur. Comme tu as mentionné, je dis de prier pour la personne et de prier pour nous-mêmes. Priez pour ceux qui vous persécutent, dit Jésus, et peut-être que cette personne-là ne changera pas. Et priez pour nous-mêmes, pour que Dieu nous garde dans les dispositions de notre cœur pour ne pas mal agir. demander à Dieu qu'il nous aide à faire preuve d'humilité. Parce que dans des conflits relationnels, en fait, il y a toujours cette question d'orgueil. C'est moi qui ai raison, l'autre a tort. Mais d'essayer de demander à Dieu plus d'humilité pour regarder la situation, ne pas se venger soi-même, parce que c'est très facile dans le contexte du travail de mettre des petits taquets, même des choses qui se voient pas. Ça peut être justement les médisances, parce que ça aussi, c'est travailler comme une forme de vengeance, en fait. La personne agit mal envers moi, donc moi, je lâche mes piques par derrière. Mais non, en tant que chrétien, c'est pas ce à quoi on est appelé. Donc, ne pas se venger soi-même, parce que je remets ce que je vis entre les mains du seul vrai juge. Je fais une parenthèse pour dire que tout ça n'exclut pas la légitimité, dans certains cas, d'une procédure. Lorsque nos droits sont foulés aux pieds. Ça existe les licenciements abusifs, ça existe le harcèlement moral, etc., etc. Et il peut être légitime de prendre contact avec un syndicat ou un avocat dans certains cas pour défendre notre situation, sachant qu'en plus, en faisant cela, on va aussi probablement servir nos collègues autour qui souffrent également. Lorsqu'il y a une personne qui est malveillante dans un service, c'est tout le monde qui en subit les conséquences. Et voilà, donc ça c'est une parenthèse pour dire que le fait de demander à Dieu de nous aider intérieurement n'exclut pas que lorsque les droits sont bafoués, on puisse les faire valoir. Bien entendu, ça se passe pas toujours comme on l'espère en la matière. Parfois la justice n'est pas rendue ici-bas et les gens qui agissent mal vont prospérer, vont continuer. On n'obtiendra pas forcément gain de cause et nos prières ne sembleront pas exaucées sur le moment. J'ai une amie qui travaillait dans une crèche publique non loin d'ici et elle s'est retrouvée accusée injustement. Sa responsable l'avait vraiment dans le collimateur et elle a été accusée injustement, donc l'objet d'une procédure, et elle a été licenciée pour faute, avec pour conséquence collatérale l'impossibilité de continuer à exercer son métier dans le public. Donc c'est bien lourd. Ça s'est pas résolu favorablement. Il y a eu ce dossier-là où elle a été accusée, elle s'en est défendue et elle était pas en faute. C'était des questions de jalousie et voilà, elle a été licenciée, elle a perdu ce job-là. Par la grâce de Dieu, elle a retrouvé un boulot dans un autre contexte, dans une autre ville. Mais voilà, la justice n'est pas toujours faite. Rappelons-nous en toutes circonstances que Dieu veut nous façonner à l'image de Jésus-Christ. Dieu ne veut pas forcément pour nous, en tout temps de notre vie, qu'on soit béni et sans aucun problème. Ça nous dépasse. On a du mal avec ça. Mais il y a aussi des temps d'épreuve qui sont dans le plan de Dieu pour nous façonner. Comment Dieu veut-il me façonner? Dieu veut-il transformer mon caractère? Comment est-ce qu'on apprend la patience et la maîtrise de soi, si ce n'est, par exemple, quand on travaille avec un collègue qui nous excède? C'est là qu'on va apprendre la patience et la maîtrise de soi. Dieu veut-il m'apprendre à compter sur lui? Mais comment est-ce qu'on va grandir dans la confiance en Dieu? Bah, quand on se retrouve dans une situation où, apparemment, on n'a pas d'issue, qu'on a tout essayé, là, on apprend, dans le dur, vraiment la confiance en Dieu. Dieu veut-il briser mon orgueil? Bah, comment est-ce qu'on apprend l'humilité? On apprend l'humilité quand on échoue. On apprend l'humilité quand on touche le fond, alors qu'on se croyait fort et intelligent. Ou encore, quand peut-être un collègue qu'on considère comme peu compétent va obtenir la promotion qu'on avait en tête. Ça peut faire partie intégrante du plan de Dieu pour moi, pour me façonner à l'image de Jésus. Ensuite, prenons conscience que notre perception des autres et des situations, elle est elle-même entachée par notre propre égoïsme et notre péché. Là, je cite un extrait de ce livre-là, « Quand l'Évangile inspire mon travail ». Une bonne partie de nos problèmes au travail vient du sentiment que ce que on nous a demandé de faire est indigne de nous. On ne devrait pas nous demander de faire ça, pensons-nous. Je vois tellement mieux. Vraiment ? Quelle est la place de ce genre de réflexion dans la vie d'un chrétien ? Après tout, si nous sommes disciples de Jésus, ne devons-nous pas nous attendre à devoir faire beaucoup de choses qui ne sont pas exactement à la hauteur de notre statut ? N'est-ce pas ce que Jésus a fait ? Réfléchissez à la façon dont Paul décrit l'œuvre de Jésus dans Philippiens 2, versets 5 à 8. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort sur la croix. Alors que je relisais mon message hier, j'ai pris conscience qu'il manquait quelque chose. Parce que si on résume jusqu'ici, ce qu'on a pu évoquer, face à l'injustice, ne restons pas forcément muets. C'est la première partie, face à l'injustice. Ensuite, face à des conflits relationnels, chercher à agir avec droiture, ne pas se venger, prier, faire preuve d'humilité, etc. En résumé, imiter Jésus-Christ. Ok. Mais tout ça, ça peut être basé sur une logique qui est erronée, qui revient à dire, en quelque sorte, « Soyez de bons chrétiens, et alors Dieu vous bénira. » Et là, tout ça s'apparente à ce qu'on appelle le légalisme. Ça veut dire croire que Dieu va vous aimer et vous récompenser parce que vous agissez bien. Et ça, c'est pas l'évangile. En fait, s'arrêter ici sur comment agir face à l'injustice et face aux conflits relationnels avec les exhortations que j'ai citées avant, il manque en fait le fond, il manque le moteur, il manque le fondement, il manque l'évangile. L'évangile, cette bonne nouvelle, peut se formuler ainsi, c'est qu'au fond, nous sommes bien plus mauvais que nous osons l'avouer. Mais que malgré cela, nous sommes aimés par Dieu d'un amour que nous saurions espérer ou imaginer. L'évangile, c'est ça. On est bien plus pécheur que ce qu'on veut avouer, mais bien plus aimé par Dieu que ce qu'on mériterait, que ce qu'on pourrait imaginer ou penser. C'est ça la bonne nouvelle de la grâce, la bonne nouvelle de la compassion de Dieu envers nous. Et cette logique-là, elle défie notre raisonnement humain. Je suis aimé de Dieu alors que je ne le mérite pas. Nous, en tant qu'êtres humains, on raisonne au mérite. T'as ce que tu mérites. Mais heureusement, Dieu, il agit pas comme ça avec nous. Mais ça sort de notre logique assez naturelle, on va dire. Et ce message de l'évangile de la grâce, comme dit le pasteur Tim Keller, ce n'est pas le B.A.B.A. de la vie chrétienne. C'est pas juste ce qu'il faut croire au début pour devenir chrétien. Mais c'est le A à Z de la vie chrétienne. C'est toute la vie chrétienne. Parce que je vis sous la grâce de Dieu. Je vis de la grâce de Dieu. Mon identité, c'est celle de quelqu'un qui est gracié. Ma sécurité se trouve dans la grâce de Dieu. Mon espérance découle de la grâce de Dieu. Tout est dans la grâce de Dieu, cet évangile. Et ça, j'ai besoin de me le rappeler chaque jour, parce que c'est jamais acquis, c'est jamais naturel. Et jusqu'ici, vous vous demandez peut-être, mais quel est le lien entre la grâce de l'évangile et mes relations au travail? Quel est le lien? Le lien, c'est que vivre de la grâce transforme mes relations. Quand je prends conscience que je suis aimé, alors que je ne suis pas aimable aux yeux de Dieu, que Jésus est mort, non pour des justes, mais pour des injustes, et ça m'intègre, moi. Quand je me rappelle cela, ça va changer mes rapports avec ceux qui m'entourent, parce que eux aussi, peut-être, sont pas aimables, mais Dieu m'a aimé, alors je ne suis pas aimable. Ça change mes rapports avec mes collègues, avec mon patron, avec mon conjoint, si j'en ai un, avec mon voisin, avec tout le monde. La grâce, c'est pas seulement un concept, mais c'est le cœur de la foi chrétienne, et ça concerne aussi, du coup, mon travail. Et je vais terminer par la lecture d'un extrait du livre « Dieu dans mon travail » du pasteur Tim Keller, pour vous donner un exemple de ce que la grâce de Dieu produit, peut produire, dans le quotidien d'un homme, dans son contexte professionnel. Tim Keller dit, comme on vient de le voir, les chrétiens devraient avoir la réputation de ne pas être impitoyables, d'être justes, bienveillants, fidèles et loyaux. Ils devraient être aussi caractérisés par une attitude de compassion et par une volonté peu commune de pardonner et de chercher la réconciliation. Ils devraient renoncer à la vengeance et ne pas se montrer moralisateur et ne pas agir par dépit. J'aime bien le devrait. C'est bien ça. Voilà ce qu'il faut faire, ce moralisme, ce légalisme. Et donc, il explique l'importance de la grâce dans la vie du chrétien pour son travail, et il raconte l'anecdote suivante. Il a implanté une église. Il dit, peu de temps après que nous avons fondé l'église à New York, une jeune femme a commencé à assister au culte. Mais elle repartait toujours très rapidement, une fois la réunion terminée. Un dimanche, j'ai réussi à l'intercepter, entre guillemets. Elle m'a dit qu'elle voulait découvrir le christianisme. À ce moment-là, la foi chrétienne n'était pas encore sienne, mais elle y trouvait beaucoup de choses intéressantes. Je lui ai demandé comment elle avait entendu parler de notre église. Et elle m'a raconté l'histoire suivante. Elle travaillait pour une entreprise de Manhattan. Manhattan, c'est un des quartiers d'affaires à New York. Peu après ses débuts, elle a commis une grave erreur qui aurait dû lui coûter sa place. Mais son chef est allé voir son propre supérieur hiérarchique et il a pris sur lui l'entière responsabilité de ce qu'elle avait fait. C'est donc sa réputation à lui qui a été ternie et il a aussi perdu un peu de la marge de manœuvre qu'il avait au sein de la société. Stupéfaite devant une telle attitude, la jeune femme est allée le remercier. Elle lui a dit qu'elle avait souvent vu des chefs s'attribuer le mérite de choses qu'elle avait accomplies, mais qu'elle n'avait jamais vu un supérieur assumer une erreur qu'elle avait commise. Elle voulait savoir pourquoi il était différent. Très modeste, l'homme a d'abord écarté la question, mais comme elle a insisté, il a fini par répondre « Je suis chrétien ». Ça veut dire notamment que Dieu m'accepte parce que Jésus-Christ a pris sur lui la responsabilité des mauvaises choses que j'avais faites. Il est mort sur la croix pour ça. C'est pourquoi j'ai le désir et parfois la possibilité d'assumer les erreurs des autres. Elle l'a regardé fixement pendant un long moment, puis elle lui a demandé « Dans quelle église allez-vous ?» Il l'a invité à venir à l'église Redeemer et c'est ce qu'elle a fait. Le cœur de cet homme avait été façonné par la grâce de l'Évangile. Avons-nous compris la grâce et ses implications? Sommes-nous façonnés par la grâce de l'Évangile?